Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. La couverture originale de Tintin en Amérique sera bientôt vendue aux enchères. En attendant, on peut l'admirer à Bruxelles, on vous explique. En Iran, les manifestations contre le pouvoir continuent, la répression aussi. Deux hommes condamnés à mort ont été exécutés le week-end dernier. Mais d'abord, direction le Brésil, où les lieux de pouvoir comme le Congrès ou la Cour suprême ont été attaqués dimanche par des partisans de Jair Bolsonaro. Nous sommes le mardi 10 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
2 ans, presque jour pour jour, après l'invasion du Capitole américain, c'est au Brésil que les symboles de la démocratie ont été attaqués. Des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et puis la Cour suprême, détruisant tout sur leur passage. Véronique Kizel du Service Monde est notre experte Amérique du Sud. On lui a demandé de passer en studio pour nous expliquer ce qu'il s'est passé. Bonjour Véronique.
Bonjour Pierre.
Un mot des faits. D'abord, que s'est-il passé dimanche à Brasilia, la capitale du Brésil?
On a vu des images spectaculaires. Au début, ça ressemblait à une visite guidée des institutions de la démocratie brésilienne, avec une foule qui avait l'air plutôt débonnaire en jaune et vert aux couleurs du drapeau. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que c'était pas si débonnaire que ça, et qu'il y a eu vraiment des actes de violence, de destruction. Et donc, ça a été une occupation vraiment symbolique et brutale du siège des institutions démocratiques brésiliennes, donc à la fois le palais présidentiel, l'exécutif, le législatif, avec la Chambre et le Sénat, et le Conseil suprême de justice. On a vu des destructions massives, on cassait pour casser, ils ont brandi des symboles, l'exemplaire original de la Constitution. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant, et il a fallu plusieurs heures pour que l'ordre soit rétabli par la police, parce qu'il semble qu'il y a eu des complicités en amont. La police n'était pas assez déployée et les manifestants ont pu rentrer très aisément. Donc c'était chaud, on a redouté un vrai coup d'État au Brésil. Ce qui, heureusement, n'a pas été le cas.
Sans surprise, vu les images, il y a très vite eu des parallèles avec l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump en janvier 2021. Est-ce que ces deux événements sont vraiment comparables?
En bonne partie, oui, effectivement. Dans les deux cas, un président Trump d'un côté, Bolsonaro, qui ont un peu lâché des démons du populisme dans leurs pays respectifs. Et puis, dans ce cas-ci, Bolsonaro n'est plus au pouvoir. C'est la différence. C'est que sous Trump, il voulait empêcher la certification des résultats. Il voulait empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Ici, Lula a prêté serment il y a une semaine. Donc le contexte est un petit peu différent au point de vue calendrier, mais ça ressemble fortement. Sauf que c'est encore plus grave au Brésil, puisque 3 pouvoirs étaient touchés. Tandis qu'à Washington, c'était juste le pouvoir législatif qui était occupé.
Vous avez interrogé Frédéric Louau, qui est un politologue de l'Université de Bruxelles, par ailleurs spécialiste du Brésil. Son interview, évidemment, est à lire sur notre site, dans le journal. Est-ce qu'il était étonné de voir arriver ces événements?
Eh bien non. En fait, depuis des mois, on sentait que la situation était en train de se dégrader, que les troupes bolsonaristes étaient très remontées, en pleine double réalité. Eux, comme une partie des militants pro-Trump, étaient sûrs que leur candidat avait gagné, qu'il y avait une tricherie et qu'il fallait défendre la démocratie en l'attaquant. Donc non, on avait cru à un moment que ça allait se passer après les élections, après la défaite donc de Bolsonaro. Mais Bolsonaro est resté extrêmement silencieux. Il a boudé dans son coin. Il a fallu du temps pour qu'il reconnaisse du bout des lèvres sa défaite, mais il n'a pas appelé ses partisans à manifester. Donc à ce moment-là, on avait vraiment redouté qu'il y ait ce genre d'événement. Le 1er janvier dernier, le jour où Lula a prêté serment pour son 3e mandat, il y avait aussi une grosse crainte qu'il y ait des débordements. Là, tout s'est passé de manière très, très pacifique et heureuse. Et donc, la population brésilienne et les observateurs se sont dit « Ok, ça va, c'est réglé, tout va bien se passer ». Mais non, ça ne s'est pas bien passé, et ce qu'on a assisté hier à des événements vraiment dramatiques.
Dans son interview, Frédéric Louau parle d'un, je cite, retour brutal à la réalité pour les Brésiliens. Qu'est-ce qu'il entend par cette expression?
Mais justement, qu'on avait cru que ça allait rouler en douceur, et puis pas du tout. On voit que le camp des bolsonaristes reste extrêmement motivé, très revanchard. Frédéric Louau m'explique que ça aurait pu être encore bien pire, parce que cette fois-ci, tous ces militants bolsonaristes n'étaient pas armés, ou avec des bâtons, ou ils ont attrapé ce qui leur tombait sous la main dans les bâtiments pour détruire. Mais on sait que sous Bolsonaro, la vente d'armes à feu a été très largement libéralisée. S'ils était venu armé, ça aurait pu tourner de manière beaucoup plus meurtrière.
On est encore relativement tôt après les faits, donc c'est difficile d'établir des responsabilités. Mais à qui incombe la faute ? À Jair Bolsonaro lui-même ou à son héritage et à, comme vous le disiez, tout ce qu'il a instillé dans la population et dans l'esprit des Brésiliens pendant sa législature?
C'est certain que Bolsonaro, en arrivant au pouvoir en 2018, a vraiment désinhibé une partie de l'électorat brésilien qui s'est senti à l'aise dans sa politique masculiniste, raciste, destructrice de l'environnement, méprisante envers les plus faibles. Donc toute une classe de la population avait l'impression qu'elle avait les coudées franches et qu'elle pouvait agir en toute liberté, un peu comme les Trumpistes aux États-Unis. Et donc même si Bolsonaro n'est peut-être pas derrière ces événements, l'enquête devrait nous en apprendre plus. Les démons libérés ont pris ce pouvoir-là et ont montré qu'ils avaient une grosse capacité d'action et de nuisance.
Il faut rappeler que le Brésil est un pays qui a vécu sous une dictature militaire. Là, l'armée n'a pas pris le parti des insurgés. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, la démocratie est sauvegardée, donc ça c'est important. On sait que Bolsonaro, qui lui-même est un ancien militaire, qui n'est d'ailleurs pas allé très haut dans la hiérarchie, avait des amitiés et des rapports de connivence avec certains militaires. Donc c'était la grosse inquiétude dimanche de voir si l'armée allait céder aux appels des protestataires qui, depuis des mois, campaient devant les casernes pour demander à l'armée d'intervenir et de casser l'accession au pouvoir de Lula. L'armée est restée solide et du côté des institutions démocratiques. Et donc ça, c'est bon pour la démocratie brésilienne.
Vu tout ça, le mandat de Lula s'annonce-t-il encore plus compliqué que ce qui était prévu ?
Oui, on savait que ça n'allait pas être du gâteau. J'avais fait un papier la semaine dernière en parlant des 12 travaux herculéens de Lula. Il doit à la fois, déminer l'héritage de Bolsonaro qui a pris toute une série de mesures qui étaient très néfastes, et notamment pour la défense de l'Amazonie, et en même temps essayer de réconcilier son pays. Donc c'est deux objectifs qui sont un peu incompatibles. Comment casser l'héritage tout en essayant de réconcilier les deux camps dans son pays? Le contexte économique est beaucoup plus difficile. Donc lui qui avait dû son succès lors de ses deux premiers mandats à ses politiques sociales assez visionnaires et généreuses qui avaient permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Cette fois-ci, tout est beaucoup plus difficile et encore plus difficile depuis ce dimanche.
Merci beaucoup Véronique.
De rien.
Depuis septembre 2022, des révoltes ont lieu en Iran contre le régime. Le week-end dernier, deux hommes ont été exécutés de pendaison pour faire passer un message. La répression n'est pas finie, le régime ne fléchira pas. Pour mieux comprendre la situation, Camille Petou a interrogé Baudouin Loss, notre spécialiste du Moyen-Orient.
Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Plusieurs mois maintenant sont passés depuis l'assassinat de Mahsa Amini en septembre dernier et depuis le début des révoltes qui ont suivi en Iran. Le régime ne semble pas fléchir. Qui sont ces deux hommes qui ont été assassinés par le régime le week-end dernier ?
Ils ont été pendus. Il s'appelait Mohamed Mehdi Karami, il avait 22 ans, et Seyed Mohamed Hosseini, lui, il en avait 39. C'était des personnes d'origine très modeste. Il faut aussi signaler que ce n'étaient pas les premières exécutions, parce qu'il y en avait eu deux autres les 8 et 12 décembre, donc il y a à peu près un mois, à Téhéran également. Et il y a encore une dizaine d'autres condamnés à mort qui attendent leur exécution.
Pourquoi ces deux hommes ont été condamnés ? Est-ce qu'ils ont pu comparaître devant la justice iranienne ?
Oui, la justice, on mettra des guillemets dans le cadre de l'Iran, bien entendu. Mais ils sont accusés d'avoir tué un milicien de la milice Basiji. C'est une milice liée aux gardiens de la révolution, qui est le principal mouvement interne au régime, mouvement armé. Enfin, c'est un mouvement très, très complexe qui a sa propre économie, etc. C'est vraiment un État dans l'État, les gardiens de la révolution. Et cette milice Basiji avait envoyé ses hommes pour réprimer les manifestants. Et voilà, ils sont accusés d'avoir tué un des miliciens. Bon, leur procès a été une parodie de justice, comme souvent sont les organisations comme Amnesty International qui en attestent. Il y a un avocat qui a pu rencontrer Hosseini, le plus âgé, dans sa prison après le procès, et qui lui a dit qu'il avait été torturé. Les deux personnes concernées n'ont pas pu choisir leur avocat et que celui qu'ils avaient reçu commis d'office s'est contenté de demander la clémence du tribunal. Clémence que visiblement, ils n'ont pas obtenue.
On a entendu le slogan « Ne le dis pas à maman ». Qu'est-ce que c'est que cette phrase qui a été reprise par les Iraniens après l'exécution ?
Oui, c'est devenu un cri de ralliement contre le régime, en fait. C'était la réaction du plus jeune des condamnés, Karami, qui est un sportif de haut niveau en karaté. Quand il a appris sa condamnation, il a fait parvenir cette phrase à son père, ne le dis pas à maman, ne dis pas à maman que j'ai été condamné à mort. Et c'est devenu cette phrase un cri de ralliement, un hashtag de ralliement, si je puis dire, des Iraniens qui l'inscrivent sur les murs, qui le crient lors des manifestations à gauche et à droite.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont condamnées à mort. Est-ce qu'on peut espérer qu'ils échappent à cette exécution?
Il y a déjà une dizaine d'autres condamnations à mort qui ont été prononcées, dont malheureusement deux confirmées par la Cour suprême, ce qui avait été le cas pour les quatre premiers condamnés. Ça veut dire pour ces deux-là que normalement, d'un jour à l'autre, ils pourraient être pendus. Cela dit, on ne sait jamais avec ce régime qui peut osciller entre carotte et bâton et se dire on va attendre quelques semaines avant de procéder à d'autres exécutions pour voir si la colère de la foule ne se calme pas un peu ou s'ils n'ont pas eu peur ou quelque chose comme ça. Avec ce régime, c'est vraiment très difficile à dire.
Donc on l'a compris, la résistance ne semble pas faire vaciller le régime qui tous les jours enfreint les droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire que personne à l'international n'agit, personne ne fait rien?
Probablement une grande majorité des Iraniens. C'est toujours un peu difficile à dire, évidemment, puisqu'on ne peut pas pénétrer dans ce pays et enquêter. Une grande majorité d'Iraniens, d'après ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, s'est érigée contre leur propre régime et n'en veulent plus. De réaction internationale, on a des condamnations, en veux-tu, en voilà, il y en a d'un peu partout. Mais bon, elles ne sont pas très efficaces. Il y a bien des sanctions, mais vous avez un régime qui est sous des sanctions innombrables, il ploie sous les sanctions, surtout américaines, depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire, dire que tel et tel responsable ne pourra plus voyager ou que ses avoirs à l'étranger sont saisis, etc. C'est très peu de choses comme moyen de pression contre un régime qui, visiblement, fera à peu près tout pour rester au pouvoir.
Et dans votre article pour Le Soir, vous avez parlé du rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient Le Jour, Anthony Samrani, qui a comparé l'Iran à la Syrie.
Oui, parce que la Syrie, dont le régime abominable de Bachar el-Assad est soutenu à bout de bras par l'Iran, le régime iranien, depuis le début de la révolution en Syrie, c'est-à-dire depuis 11 ans. Toutes formes de répression les plus atroces ont été exercées dans ce pays, en Syrie, contre la population en révolte, y compris des bombardements sur les hôpitaux, sur les files devant les boulangeries, vraiment les choses les plus atroces, même le recours à des armes chimiques. Et finalement, le régime n'a pas été attaqué, il n'a subi que des sanctions semblables à celles que subit le régime iranien. D'une certaine façon, c'est une impunité dont Bachar el-Assad et son régime depuis 11 ans. Et le régime iranien peut très bien se dire nous allons probablement avoir le même traitement et donc on peut continuer sans crainte de sanctions plus importantes.
Et pour terminer, malgré cette grande impunité, est-ce qu'on peut retenir quelques conséquences positives sur l'effet de ces manifestations qui durent depuis septembre?
C'est difficile de trouver des choses vraiment positives. Il y a eu à peu près 500 morts, 14 000 arrestations. Il y a une chose qui est vraiment plus claire, c'est que maintenant, on voit vraiment de manière évidente que ce régime est contre sa propre société et que sa propre société n'en veut plus. Ce sont des choses dont on pouvait encore douter dans une certaine mesure. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce régime qui est extrêmement rétrograde, qui veut appliquer un islam d'un autre temps, franchement, est vomi par sa population et c'est quelque chose qui est maintenant très clair. Cette population, elle veut quoi? Cette société, elle veut quoi? Elle veut la liberté.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Aujourd'hui, c'est Daniel Couvreur, le chef du service culture qui nous emmène à l'espace Art Curial à Bruxelles. On peut y admirer le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique avant qu'elle ne soit vendue aux enchères. Louise Canu a commencé par demander à Daniel à quoi ressemble ce dessin.
Alors c'est une encre de Chine rehaussée d'un petit peu d'aquarelle qu'Hergé a réalisé en 1942. À l'époque, donc les premiers albums de Tintin étaient tous en noir et blanc. Et dans les rééditions, on ajoutait ce qu'on appelle des hors-texte couleurs, c'est-à-dire des grandes images en couleur, parce que il était encore techniquement impossible à ce moment-là de faire des albums entièrement en couleur. Et pour une des rééditions de ces albums en noir et blanc avec ces images hors-texte couleurs augmentées, eh bien on avait demandé à Hergé de faire une nouvelle couverture pour l'album de Tintin en Amérique. Et donc, ce dessin a d'abord servi de couverture en couleur pour un album en noir et blanc. Et ensuite, quand quelques années plus tard, après la guerre, on en est arrivé à pouvoir rééditer tous les albums de Tintin en couleur cette fois, eh bien là, c'est devenu aussi la couverture de l'album en couleur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ont vu un jour cette couverture devenue iconique de Tintin en Amérique, puisque c'est un des albums les plus vendus de la série en fait, donc où on voit un chef indien et Tintin à lié au poteau de torture, on peut découvrir le dessin original. Et ce qui est intéressant, si vous allez voir, puisqu'on peut aller le voir gratuitement dans l'exposition de la Galerie Arcturiale à Bruxelles, ce qui est intéressant, c'est que on voit ce qu'on appelle les remords du dessinateur. Autrement dit, il y a des traces d'Indiens dessinés au brouillon, au crayon, qui sont effacées, mais pas complètement. Et donc, on voit que le dessin que chacun connaît aujourd'hui n'a pas été tout de suite immédiat pour l'auteur, et qu'il a un petit peu cherché, un petit peu tâtonné avant d'arriver au final. Et c'est amusant de découvrir ces remords qu'on ne voit que si on va mettre le nez dessus dans la galerie, parce qu'évidemment, dans les reproductions qu'on fait, c'est trop évanescent que pour pouvoir être distingué. Donc c'est assez passionnant de voir ce travail de l'ombre.
Pourquoi Tintin en Amérique fait un détour par Bruxelles avant d'être vendu aux enchères à Paris ?
Alors c'est une bonne question, mais évidemment Arturial, je l'ai posé à la responsable de la galerie qui m'a dit, bah, évidemment Hergé est un sommet de la bande dessinée, c'est l'auteur le plus coté au monde, mais il est belge comme chacun le sait, et pour la galerie qui a donc une implantation bruxelloise, puisqu'ils ont un hôtel de maître avenue Franklin Roosevelt dans lequel ils exposent régulièrement des œuvres qui sont mises en vente à Paris, mais c'est aussi leur première implantation hors France, historiquement celle de Bruxelles, donc il y avait une double raison. D'abord les ventes prestigieuses avec des pièces exceptionnelles comme celle-ci, qui est vraiment une pièce de musée, ça vaut la peine de les montrer, de pouvoir les montrer aux collectionneurs ailleurs que rien qu'à Paris. Et en plus il y a l'ancrage belge de Tintin et de l'œuvre d'Hergé qui est ici manifeste, et donc c'est une manière de rendre hommage aussi au pays où l'auteur est né.
Pourquoi Tintin fascine encore et toujours ? C'est quoi le petit secret d'Hergé ?
Ah ça, des centaines d'exégèses de l'œuvre ont déjà essayé de comprendre, évidemment. Il y a mille et une raisons, mais à titre personnel, mon avis est que c'est un dessin qui est devenu iconique parce qu'il réussit une forme d'épure de la réalité, et cette épure de la réalité permet à tout le monde de s'y projeter plus facilement. Et donc, la ligne claire, c'est un monde simplifié avec dans lequel on sent aussi une distance humoristique, une forme de légèreté par rapport à l'actualité qui nous entoure, et donc ça permet vraiment à chacun de se glisser dedans. J'ajoute que au milieu de cet univers qui a une forte connotation réaliste quand même, le trait de Tintin lui-même lui tend vers l'abstraction. Et donc on ne sait pas très bien quel âge il a, on ne sait pas très bien de quelle couleur il est, on ne sait même pas très bien de quel genre il est, en poussant ça jusqu'au bout, parce que cette espèce de visage ovale avec juste une petite houppette au-dessus et un petit point pour le nez, deux petits points pour les yeux, ça peut être n'importe quel être humain, où qu'il soit, sans distinction de race, de couleur, de sexe. Et du coup, ça donne ce caractère universel au personnage. Et je cite toujours une anecdote à cet égard qui à l'époque avait beaucoup surpris les réalisateurs du premier film de Tintin, donc Les Mystères de la Toison d'Or au cinéma, et qu'ils avaient lancé un casting international, et bien il y a des acteurs africains qui se sont proposés à l'époque, et aujourd'hui ça semble naturel puisqu'on peut imaginer un Sherlock Holmes noir sans aucun souci, autant à l'époque tout ça était beaucoup plus figé, il était inconcevable qu'on ait imaginé que Tintin puisse être d'une autre couleur que blanc si on cherchait un acteur, mais pas dans l'esprit des lecteurs africains de Tintin qui s'identifiaient parfaitement à lui, ce qui montre bien son caractère universel de manière intemporelle, puisque ce que je dis là se produisait dans les années 60 en fait.
L'original de la couverture de Tintin en Amérique, c'est à voir jusqu'au 14 janvier à l'espace Arcturial à Bruxelles.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.